J'en révèle la loi. Les yeux mi-clos, un pli dur au front, la bouche hermétiquement close, le menton appuyé sur une canne, Ravet, monsieur Ravet de Grand Couronne, écoutait le clerc de notaire qui lisait un acte. Et les coparents reconnaissent par ces présentes avoir reçu en espèces ces billets acceptés comme numéraires, comptés et délivrés à la vue des notaires, de monsieur Ravet, auquel ils en accordent quittance, savoir. Premièrement, la somme de 6 000 francs, principal de son prix d'acquisition. Deuxièmement, celle de 69 francs 16 centimes, pour intérêt de cette somme depuis Saint-Michel dernier jusqu'à ce jour. Total, pardon, interrompit Ravet, je dois pas d'intérêt. Interloqué, le clerc consulta son dossier et répondit « C'est moi, monsieur, qui vous demande pardon. Vous devez parfaitement les intérêts, vous les devez. Vous avez acheté votre immeuble des héritiers Guichard le 8 mai 1894. Vous en avez jouissance à Saint-Michel suivant. Vous payez aujourd'hui 20 décembre, donc vous devez les intérêts du prix depuis Saint-Michel, c'est-à-dire pendant 83 jours. » Ravel parut réfléchir profondément, hésita, puis s'exprima ainsi. Je consultais un avocat, le bailleur de la ville. Il m'a dit que je ne devais pas d'intérêt. Mais, objecta le clerc, il ne s'agit pas d'avocat. Le cahier de charge est formel. Voulez-vous que je vous relise la clause? Là, tenez. L'acquéreur devra les intérêts depuis l'entrée. Inutile de continuer. Je suis parfaitement renseigné, la loi est là, je dois pas d'intérêt. » C'était péremptoire. Le clerc restait interdit, bouche bée. Les recevants, les héritiers Guichard, se consultèrent du regard, rapprochèrent leurs chaises, échangèrent quelques mots à voix basse. Quel drôle d'incident, mais oui, Ravet devait les intérêts. Bien sûr qu'il les devait, puisqu'il jouissait du bien ainsi. Celui-ci, très calme, attendait, et comme les héritiers n'élevaient pas la voix, il parla. « Je m'en rapporte, dit-il, à ces messieurs et dames. » Ceux-ci eurent un sursaut à cette interpellation absolument inattendue. Et tout à coup, ce fut une explosion. Mais qu'est-ce que c'était qu'une histoire pareille? A-t-on jamais vu? Mais quel toupet, quel aplomb! Mais est-ce qu'il prenait les Guichards pour une couvée d'imbéciles? Devant cet orage, Ravet se tut, parut se résigner et attendit. Très perplexe, le jeune clerc alla acquérir le principal de l'étude. Celui-ci, la stupéfaction peinte sur son visage, entra, et s'adressant à Ravet, « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas » dit-il. « Vous avez du bon sens, de l'honnêteté. Voyons, regardez vous-même notre minute, c'est écrit. »« Je dis pas non, » acquiesça Ravet, « mais la loi est plus forte que tous les écrits des notaires. »« Je ne comprends pas votre obstination, » dit à Ravet M. Maître Gonin avec une nuance de désévérité. Vous allez vous faire assigner, vous paierez les frais, et ce sera bien fait. Ho, ho, répliqua Ravet, c'est à voir. On ne perd pas un procès quand on a raison. Il y a des juges, n'est-ce pas? Le notaire se demandait s'il était en face d'un mystificateur. Ah, savez où avez-vous donc été chercher des idées pareilles? Bien sûr que c'est pas moi qui ai inventé les articles du code. Le code à présent, mais le code n'a rien à voir là-dedans. Comment ? S'écria Ravet indigné. Vous refusez de vous en rapporter au code ? Pour la notaire, elle est forte, celle-là. Maître Gonin fut abasourdi, perdit contenance, sentit une colère qui montait au visage. Tout bas, il dit à son maître clerc. Oh, monsieur Ferraud, j'aime mieux me retirer. La patience m'échappe. Est-il fou? Est-ce qu'il se moque de nous? Avisez, au fait au mieux, c'est extravagant. Et il sortit, haussant les épaules. Ravette triomphait. Il dit au clerc: Votre patron reconnaît qu'il y a cours de bonne raison, et puisqu'il s'en va. Mais espèce d'entêté! Cria Ferraud, le patron s'en va parce qu'il est à bout, que vous le mettez en rage, que vous lui faites pitié à la fin. Vous comprenez donc rien. C'est écrit là, on vous dit que c'est écrit. Eh ben, le code, est-ce qu'il n'est pas écrit, lui aussi? D'abord, je vous prie d'être poli, vous. On peut s'expliquer sans être malhonnête, je suppose. Quand on discute, on ne se dispute pas, ben discutons. C'est vrai, dit le clerc un peu confus. Excusez-moi, mais comment ne pas mettre en fureur? C'est inouï, mais qu'est-ce que vous espérez avec tous ces raisonnements ridicules? Vous avez accepté la clause, il faut l'exécuter. J'ai pu me tromper, erreur n'est pas compte. Voyons, monsieur Ravet, ne nous faites pas perdre notre temps. La somme est bien peu importante. Peu importante, 69 francs 16. Oh, vous en parlez bien à votre aise. Je suis pas millionnaire, j'ai qu'une petite situation bien gentille, à force d'économie, en défendant mes intérêts. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je n'ai pas plus que ces messieurs et dames le moyen de perdre 69 francs 16. Chacun connaît midi à sa montre. Je peux pas abandonner ce qui est là-bas. Je peux pas devenir un dissipateur. J'ai eu du mal, j'ai réussi, aide-toi, le ciel t'aidera. Et il leva les yeux en l'air comme pour prendre le bon Dieu à témoin de tout ce qu'il disait. À ce moment, Maître Gonin fit une nouvelle entrée dans l'étude. Il était accompagné d'un homme grisonnant, à belle tête longue et fine, à qui il achevait de dire: Tenez-vous, un observateur, un curieux, entrez, c'est un cas. Puisque le hasard vous fait arriver à point, regardez, oh, cela en vaut la peine. Vous n'avez jamais vu cette espèce dans votre carrière, je parie. Et s'adressant à Ravet: Ah, voyons, je vous présente, monsieur le président, de notre chambre des notaires. Il est impartial, lui. Voulez-vous en rapporter hein, ce qu'il décidera? Je suis pas fâché, répondit Ravet, d'avoir affaire à un homme aussi haut placé. Vous, maître Gonin, sans vous offenser, vous êtes le notaire de la famille Guichard et vous défendez l'intérêt de vos clients, c'est naturel. Je vous en veux pas. Mais je suis bien sûr que ce monsieur, votre président, ne me donnera pas tort quand j'ai raison. On expliqua les faits à monsieur le président, qui parut égayé, trouvant l'incident drôle, d'une originalité inconnue jusqu'alors. Très intéressé, il regardait cette figure de paysan qui aurait paru insignifiante et obtuse si elle n'avait pas été éclairée par deux yeux très mobiles ou un peu étirés à la chinoise. Un type, pensa le notaire. Et prenant la parole, il me semble, dit-il, que si monsieur Ravet a consulté un avocat. Oui, monsieur, le premier de la ville. Le premier, c'est entendu. Lui avez-vous bien expliqué les faits? Ne serait-il pas bon de l'amener ici pour lui communiquer la minute? Ben, ça va coûter gros pour son déplacement. Oh, si vous voulez payer, je ne demande pas mieux, moi. À la bonne heure, dit le président. Voilà une proposition qui ne manque pas de fantaisie. Elle est même amusante. Oh, rien à faire, mon cher confrère. Voulez-vous que je vous donne mon avis? Ce bonhomme-là, c'est un malin qui fait la bête, comme le berger dans la farce de Maître Patelin. Et savez-vous ce que je vous conseille? Pour le déniaiser subitement, une bonne leçon sur papier timbré. Ce sera souverain. Au revoir, confrère. C'est trop violent, s'exclama Ravet. En voilà encore un qui me donne tort, mais ils sont tous ligués contre moi. Et il poursuivit avec une nuance d'amertume. « J'aurais dû m'en douter. Pouf. Ce président appelle le notaire d'ici, mon cher confrère. Il ne peut pas se tourner contre lui. Tout le monde est d'accord pour m'embrouiller. Bon, mais je ne me laisserai pas faire. » Cela devenait énorme. Tout le monde était effaré autour de Ravet, qui, lui, demeurait impassible. Mais comment faire raison à cet homme vraiment extraordinaire? Les raisonnements s'accumulaient, se diversifiaient. « Voyons, monsieur Ravet, si c'était vous le vendeur, est-ce que vous accepteriez de donner jouissance de votre immeuble sans qu'on vous payât les intérêts ?»« Oh, c'est bien différent. D'abord, votre immeuble, je l'ai acheté beaucoup trop cher. Enfin, est-ce que je vous réclame quelque chose, moi ? Non, ce qui est dit est dit. Chacun le sien, la maison est à moi. Les 6 000 francs sont à vous. Les voilà. Et si vous voulez, nous en verrons plus long. Les juges examineront tout ça. » Le maître clerc continuait d'évangéliser Ravet, qu'il écoutait en souriant, sans être touché par les ingénieuses déductions qu'on lui présentait. « Voilà, répondait-il parfois, c'est votre idée, mais c'est pas la mienne. » « Voyons, dit le clerc, terminons-en. Il s'agit de 69 francs 16. Coupons la paille en deux. Les héritiers, je l'espère, ne me dédieront pas. » Monsieur Ravet se fâcha et devint tempétueux. Comment ? On osait lui proposer un marché pareil, un marché de dupes, payer 34 francs 58 qu'on ne doit pas, mais pourquoi ça ? Il n'avait rien du tout à payer, pas un centime. C'était clair comme l'eau de roche. L'immeuble avait besoin de réparation. Est-ce que monsieur Ravet demandait au vendeur d'en payer la moitié ? Non. Il était trop juste, trop loyal pour cela, etc., etc. Et il conclut. « Personne ne peut me blâmer de m'en rapporter à la loi, qui est pour tous les Français grands et petits. » Comment faire avec un entêté de ce calibre ? Le maître clerc prit les héritiers à part et leur dit. « Vous savez, c'est idiot tout ce qu'il dit ce cabochard-là. Seulement, voilà, allez-vous plaider pour 69 francs ?»« Mais enfin, dire ceci, c'est renversant. Un vieux Richard comme lui, ça n'a pas de nom, eh bien, ben, vaut mieux plaider. » « Oui, mais vous dépenserez 500 francs. » Ravel entendit. « À la bonne heure, s'écria-t-il sentencieusement. Pour un bon conseil, en voilà un bon conseil. Vous connaissez le proverbe, messieurs et dames, un mauvais arrangement vaut bien mieux qu'un bon procès. » Et ses petits yeux clignotèrent malicieusement. Les recevants demeuraient consternés, inertes, accablés. Tout à coup, l'un d'eux, plus nerveux que les autres, se leva et, interpellant Ravet, il lui cria « Vieux filou, vieux grigou, vieux rossard, vieille potence !» Ravet parut vexé, plongé dans un ébahissement incommensurable. Sa bouche fit un « Oh !» Il sembla faire des efforts pour parler et ne pouvoir. À la fin, il murmura, « Oh, ben, si je m'attendais à ces gros mots, j'aurais pas dû acheter votre immeuble. Personne ne vous l'aurait payé à prix pareil. Enfin, dans la vie, on est toujours mal récompensé. Je suis pas me sacrifier davantage. » On voulut tenter un dernier effort, et l'un des héritiers essaya de raisonner Ravet. Mais celui-ci, sentant ses adversaires fléchir, perdre pied, devenait irréductible. Avec une certaine sévérité douce et une nuance de paternelle autorité, il dit à son interlocuteur, « Mais mon cher ami, ni vous ni moi ne connaissons les affaires, la jurisprudence et aux inventions. Il faut nous en rapporter aux gens de loi. Eh bien, moi, j'ai conseillé, j'ai consulté, je vous dis, C'est écrit, c'est prévu dans le code, tout ce qui nous arrive. Nous n'avons pas besoin de faire tant de combinaisons. J'ai dit 6 000 francs, ben prenez-les, voilà tout. J'irai pas vous les reprendre, c'est bien sûr. Ayant conscience du désarroi, de l'ahurissement général, Ravet se décida alors à frapper un grand coup. Il dit avec une certaine emphase solennelle, « Mesdames et messieurs, si contre toute justice vous vous obstinez à ne pas recevoir votre argent, vous irez le chercher à la caisse des consignations, si vous pouvez jamais le revoir. Moi, je m'en vais. Vous direz pas que j'y ai pas mis du bien, hein, mais j'ai ma conscience pour moi. » Il fit un pas vers la porte. Sur un regard du clerc, les héritiers se consultèrent alors et, vaincus, résignés, dirent « Bon, nous acquiesçons. Où faut-il signer? Qui garde ses intérêts ?» Triomphant, Ravet enveloppa tous les assistants d'un regard indulgent, supérieur, ancestral. « À la bonne heure, prononça-t-il. Vaut-il pas mieux se quitter, bons amis ?» Il compta ses louis. Quand l'acte fut signé et paraffé, il ajouta « J'avais la loi pour moi, c'était sûr. » Et il termina par cette admonestation réservée au principal clerc de notaire. « Seulement, dans tout cas, ce qui m'a surpris, c'est que vous, mon jeune ami, vous ayez fait tant de difficultés pour expliquer la loi. »